Merci à l'IMAOV, l'Institut des médecines alternatives et ostéopathie vétérinaire, de sponsoriser cet épisode. Sur cette saison 2, nous avons eu de nombreux invités qui ont enrichi leur pratique avec des médecines complémentaires, ce qui nous démontre que l'attrait pour ces manières différentes de pratiquer la médecine est grandissant. L'IMAOV propose des formations de grande qualité, exclusivement réservées aux vétérinaires, et ce depuis 25 ans. Une formation diplômante en ostéopathie qui prépare au DIE, Diplôme Inter-École Ostéopathie Vétérinaire, mais aussi en acupuncture et également bien sûr en physiothérapie et phytothérapie. Les sessions de formation se déroulent en région parisienne ou lyonnaise, en petits groupes, ce qui permet de consacrer 50% du temps à pratiquer. C'est important aussi de dire que vous pouvez bénéficier d'une prise en charge par l'organisme OPCO-EP ou d'autres organismes comme FIFPL ou France Travail par exemple. Si vous aussi vous avez envie de faire les choses autrement pour soulager l'animal et être dans la prévention, en complément de la médecine allopathique et du curatif bien sûr, je vous invite à consulter le site internet imaof.com où vous trouverez toutes les informations utiles. Merci à l'IMAOV de soutenir ce podcast. Et maintenant, place à l'invité.
Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet.
Bonjour, je suis Sophie Wilforn, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires.
Et moi, je suis Marine Slove, vétérinaire touche à tout, journaliste, consultante et cofondatrice de Veto Job.
Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire.
Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous.
Belle écoute.
Avertissement. Cet épisode aborde les questions de la dépression et du suicide. Veillez à l'écouter dans de bonnes dispositions. Ajon. Et à toutes nos consoeurs et confrères touchés directement ou indirectement par la dépression et le suicide. Vous êtes sur la partie 2 de l'épisode 42. Cet épisode est divisé en deux parties, et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à écouter d'abord la partie 1. Sinon, voici la suite de mon entretien avec Delphine.
Et ce psychiatre que tu vois, tu lui parles de ses idées noires ?
Oui. J'en ai vu une première. Que j'avais trouvé sur les pages jaunes, hein, qui était proche de chez moi, avec qui ça s'est hyper mal passé, parce que alors à l'époque, j'étais pas du tout familière des courants et de psychanalyse ou psychologue, enfin, je connaissais pas du tout ça. Et je pense qu'elle était dans la branche psychanalyse, parce que du coup, son interrogatoire était pas du tout ce que je m'attendais et me paraissait pas du tout approprié. La première et seule séance qu'on a faite ensemble, elle m'a fait parler que de ma famille, de mes ascendants.
Oui, de ma grand-mère. Presque de la psychogénéalogie, quoi.
Voilà. Et du coup, je voyais pas le rapport. Et puis là, j'étais hyper mal en point cette fois-là. Je lui avais dit que j'avais des idées noires et tout ça. Et elle avait été très brutale avec moi. Déjà pour des choses pratiques ou, rien que de prendre un rendez-vous pour la fois suivante. Où je lui donnais mes disponibilités qui étaient faibles, parce que ça aussi c'est un problème quand on est vétérinaire pour avoir un rendez-vous, quand on finit tard et qu'on est on a souvent pas de jours en semaine, enfin là en l'occurrence comme j'étais à mon compte, j'avais peu de disponibilités dans les heures classiques de consultation. Les disponibilités que je lui donnais, ça collait pas, donc elle me disait oui, il y a un moment si vous voulez vous faire soigner, il va falloir que vous fassiez un effort, enfin me parlait comme ça en fait. L'air de dire, si vous trouvez pas de temps pour venir, c'est que vous avez pas envie. Enfin, c'était un discours comme ça, pas du tout bienveillant, et où vraiment, ça m'avait vraiment refroidi. Et puis, je me souviens d'un autre truc qu'elle m'avait dit, qui m'avait beaucoup choquée, c'est que, du coup, elle m'avait demandé, donc, pour mes grands-parents, et puis je lui explique que ma grand-mère paternelle s'est suicidée. Et que, je l'avais appris, enfin, qu'il y avait eu, comme un secret en fait, et que mes parents me l'avaient dit, je l'avais découvert vraiment par hasard très tardivement, parce qu'ils m'avaient dit qu'elle était morte dans un accident de voiture, parce que bah, il s'était dit que j'étais trop petite. Je pense que je devais avoir 5-6 ans à l'époque. Et du coup, il m'avait pas dit la façon dont elle était morte. Sauf qu'ils ont oublié après de, qu'il m'avait menti, en fait.
Oui.
Et du coup, il m'avait jamais redit et je l'ai découvert à un moment donné. On était en voiture avec mon frère et puis voilà, et puis c'est sorti. Et puis là, je leur ai dit, mais quoi, elle est pas morte dans un accident de voiture? Et ça m'avait choqué, en fait,
oui,
d'être la dernière à l'apprendre et de l'apprendre de cette façon. Et j'avais raconté ça à la psychiatre. Et puis, elle m'avait demandé pourquoi elle s'était suicidée. Et je lui avais dit voilà, que j'avais pas trop demandé de détails. Et puis, elle m'avait dit, mais c'est bizarre, pourquoi vous avez pas demandé? C'est vraiment très bizarre. Enfin, elle jugeait, en fait.
Oui, oui, d'accord, oui.
Et du coup...
C'est un peu hors sujet par rapport à ton état du moment.
Mais
quoi.
Bien sûr, c'était pas du tout ça le problème. Donc, j'étais très perplexe. Et puis, en fait, ça c'est... Enfin, le hasard a bien fait des choses, c'est qu'elle m'a recontactée pour me dire qu'elle annulait mon rendez-vous. Et heureusement, parce que je pense que sinon, comme j'étais un bon petit soldat, j'allais quand même y aller, alors que visiblement, c'était pas quelqu'un qui allait me convenir, quoi. Et après ça, donc j'ai trouvé une autre psychiatre qui était extraordinaire, enfin, où vraiment c'était tout ce qu'il me fallait, quoi. Elle avait une très bonne écoute, et puis elle a identifié tout de suite tout ce qui allait pas, en fait. Donc notamment, moi à l'époque, je me souviens que la toute première fois où je l'ai vue, je lui ai dit que je savais qu'il fallait que je quitte mon conjoint, mais que j'étais dépendante de lui. Donc par rapport à mon état émotionnel où je me sentais pas de vivre seule et que j'avais l'impression que c'était grâce à lui que je vivais finalement. Alors après, il y avait tout ce problème d'emprise, hein, parce que il a tout fait pour que je me mette dans ce conditionnement-là. Et elle m'avait dit. Vous êtes dépendante de lui autant qu'il dépend, enfin, en gros, que lui aussi dépendait de moi. Elle m'a dit ça la première séance, mais je l'ai pas compris, je la croyais pas. J'ai dit, mais non, il dépend pas de moi, lui, il va très bien sans moi. J'avais pas du tout compris, et en fait, avec très peu d'éléments, elle avait déjà compris que j'étais sous emprise, et du coup, elle m'y a amenée, mais ça a pris très longtemps, ça a pris 6 mois. Avant que je me réveille enfin, et du coup, son approche était vraiment top parce que jamais elle me jugeait. En fait, elle m'amenait sur la voie par des questions. Elle voyait, enfin, ouais, j'avais l'impression qu'on était rentré en résonance et qu'elle avait beaucoup d'empathie pour moi. Et que,
donc
vraiment,
ça, c'est l'aspect psychothérapie que tu fais avec elle. Est-ce qu'elle te propose un traitement médicamenteux?
Alors, en fait, bizarrement, c'était une psychiatre qui ne prescrivait pas de médicaments. Elle m'a dit, allez voir votre médecin.
D'accord.
Donc, il m'avait prescrit. Oui, c'est. Enfin, moi, j'y allais un peu pour ça. Et en fait, elle m'a dit non. Moi, je veux pas le voler. Donc, ouais, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi c'était comme ça. Mais en tout cas, pour moi, elle jouait le rôle de psychologue, en fait. Hein. Ça,
c'était oui, d'accord. Vraiment, c'était vraiment la psychothérapie de soutien. Hein. Ouais.
Voilà, c'est ça. Et du coup, ouais, elle m'a. Enfin, vraiment, elle. Enfin, je lui avais dit même à la fin, la dernière séance, je lui dis, vous m'avez sauvé la vie, quoi. Et donc j'avais consulté une première fois et puis quand j'ai senti que je redégringolais en 2019, j'avais repris rendez-vous avec elle et en fait j'ai annulé mon rendez-vous. Donc si ça se trouve je serais pas passée à l'acte en fait si j'avais été la voir.
D'accord. Et juste pour en revenir à avant, donc et ton médecin généraliste il te met un traitement médicamenteux ou t'es sans traitement?
Alors non, pas à l'époque en fait. La toute première fois où je l'ai vue, en fait j'ai pas eu de traitement du tout. Et puis, ça a été, j'ai retrouvé le sommeil, j'ai retrouvé l'appétit, juste en lui parlant, en fait.
D'accord, ok. Donc, au moment où tu passes à l'acte, tu n'es pas traitée par des antidépresseurs.
Non, j'étais plus suivie parce que j'allais... En fait, j'avais arrêté d'un commun accord. Hein. Elle m'avait dit qu'elle trouvait ça ok, qu'on arrête et qu'elle était là si j'avais besoin, mais... Voilà, enfin, j'ai pas arrêté comme ça, moi, brutalement, mon propre chef. Enfin, ça a été fait correctement, quoi. Si j'étais encore avec mon ex, mais ouais, je pense qu'elle avait senti qu'elle pouvait pas plus m'aider et que je sais pas. Je sais pas ce qu'elle s'est dit. Ça m'intéresserait de savoir maintenant, mais je sais pas comment elle a analysé toutes les choses.
Et lorsque tu replonges en 2019, pourquoi tu annules ce rendez-vous?
Je pense que j'avais peur, je sais pas. Je pense que j'allais tellement mal. Alors, je pense aussi que le fait de rechuter, de me rendre compte, parce que, ça avait été dur quand même, ces 6 mois que j'avais passé à aller la voir et tout ça. J'avais plus la force, en fait, de
recommencer. Oui, t'avais gratté beaucoup de choses.
Ouais, mais pas tout. Enfin, ça, je l'ai appris après, mais on n'avait pas tout gratté, quoi. Il y avait plein de choses que j'avais pas découvert à l'époque. Et ce qui m'a fait vraiment plonger encore davantage en 2019, donc c'est le fait que, du coup, j'étais supposée reprendre le cabinet toute seule. Donc, mon associée était supposée...
sur le départ.
J'étais supposée racheter ses parts. Donc, je me retrouvais, du coup, avec une salariée vétérinaire, une jeune vétérinaire, du coup, que j'avais embauchée pour compléter mes horaires et pas me retrouver à travailler tout le temps. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai dû faire le deuil, en fait, du fait que ce serait plus comme avant. Et que quand j'ai créé pour qu'on soit à deux, pour échanger sur des cas, où on se stimulait intellectuellement, où on partageait quand même, mine de rien, même si j'avais l'impression que j'en faisais plus au niveau administratif, au niveau des tâches de gestion qu'elle, eh ben, elle en faisait quand même. Et mine de rien, de me retrouver à faire énormément de gestion, à former les autres, parce que pareil, la vétérinaire, il fallait que je la forme aussi. Donc, ça me faisait beaucoup de charge mentale, en fait, beaucoup trop. Vu mon état d'épuisement, c'était beaucoup trop, quoi. Et là, j'ai plongé. Ce qui m'a vraiment fait dégoupiller, ça a été une formation format veto pour la PCR.
D'accord.
Ou pour ceux qu'on n'ont jamais fait, en fait, ça se limite pas aux règles de radioprotection. La formatrice, en fait, comme son activité annexe, c'est aussi de d'épauler les vétos qui ont des contrôles par l'inspection du travail ou la médecine du travail ou des choses comme ça. En fait, elle les aide à mettre leur dossier administratif en ordre. Et ça fait qu'elle passe les 2 jours de formation à expliquer tous les cas compliqués qu'elle a eus, toutes les erreurs qu'ont fait les gérants, qu'elle a dû rattraper après, tout ce qu'on risque, tout l'aspect vraiment réglementaire si on devait faire tout dans les règles. Ce que très peu de veto, enfin, je m'en suis rendu compte avec tout le recul que j'ai, avec toutes les cliniques où j'ai travaillé, je pense pas avoir déjà travaillé dans une clinique qui est en ordre réglementairement, parce qu'il y a tout un tas d'affichages à avoir dans la salle de pause, interdit de fumer, interdit de ceci, interdit de cela, des numéros, des médecins à jour, des choses comme ça. Et en fait, elle nous assène pendant 2 jours toutes les obligations réglementaires. Et du coup, le but de cette formation, c'est de nous dire, voilà ce qu'il vous reste à faire. Et en fait, en voyant que j'étais pas dans les clous, enfin, en l'écoutant parler, je me disais, oh là là, mais il y a rien qui va, je fais rien comme il faut. Et en fait, je pense que tous les autres dans la salle aussi, ils sont pas en ordre. Mais du coup, moi, ça me dépitait, quoi. Je me disais, mais je vais jamais y arriver toute seule.
J'ai senti complètement submergée la dose de choses à faire.
Ah, voilà, c'est ça. Et je me souviens que au niveau de mon cerveau, ça allait pas du tout non plus. Donc, je mangeais rien. Enfin, on avait les repas compris. J'étais incapable de manger le midi. Pour moi, c'était une épreuve de manger avec les autres parce qu'il fallait faire comme si de rien n'était. Puis il y avait des gens de ma promo en plus que j'avais pas vu depuis des années. Et puis il fallait que je donne le change, du coup, que je fasse comme si tout allait bien, que je dise, ah bah oui, je viens de me séparer de mon associé, mais tout va bien, tout baigne. Alors
trop d'énergie, quoi.
À l'intérieur, j'étais morte à l'intérieur et il fallait que je fasse comme si tout était génial. Donc c'était une horreur. Et du coup, on avait un petit examen à la fin de cette session. Et je me souviens que c'était un truc qui me stressait vraiment anormalement parce que j'avais l'impression que j'avais la tête vide. J'avais vraiment le cerveau qui était bloqué et je perdais complètement mes moyens. Et même si tu m'avais demandé 2+2, ça fait combien, j'aurais pas su te répondre tellement j'étais anesthésiée du cerveau, quoi. Vraiment. Et je me souviens que je regardais sur mes voisins. Enfin, j'étais paniquée. Enfin, c'était l'horreur, quoi. En plus d'avoir un examen à passer à la fin, c'était la cerise sur le gâteau. Et puis je l'ai réussi quand même, mais vraiment c'était ça m'a vidé complètement. Enfin, j'avais déjà plus trop d'énergie, c'était et du coup je suis passée à l'acte le mardi qui suivait. Ma formation c'était jeudi vendredi, j'ai passé le week-end. Je me souviens qu'un truc très important aussi, c'est que je pouvais pas le faire. C'était impossible pour moi de le faire à ma clinique parce que je voulais pas que ce soit
tes salariés.
Je voulais pas que ce soit mes collègues qui me trouvent parce que j'avais beaucoup d'affection. Enfin, j'ai toujours beaucoup d'affection pour elle. Et je voulais absolument pas que ce soit elle qui ait ce trauma-là, en fait, de voir...
Bien sûr.
J'imagine même pas ce que ça doit faire, en fait, de trouver quelqu'un de mort. C'est quand
même quelque chose... Je pense que c'est quelque chose d'effectivement très traumatisant.
Donc, pour moi, c'était inenvisageable. J'avais réfléchi à plein de choses. Hein. Donc, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que depuis... ça faisait des mois que j'avais une bouteille de Tazol chez moi avec... avec ce qu'il fallait, quoi, pour je m'étais déjà entraînée à me poser des cathéters. Enfin, j'avais des envies de passage à l'acte, j'en avais déjà eu plein, hein, où j'avais pas été au bout, mais je m'étais dit, est-ce que j'y arrive, est-ce que j'arrive à le faire toute seule? Et en fait, j'avais ça à la maison parce que je me disais, si un jour c'est trop dur, au moins j'ai ce qu'il faut. Enfin, c'était ça, en fait, mon idée. C'était, si un jour la douleur est tellement insupportable, au moins, je peux l'arrêter, tu vois.
En fait, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que de savoir que tu peux te poser un cathéter toi-même et d'avoir un flacon de Tazol à la maison, ça te rassure parce que tu souffres tellement que tu sais qu'en fait, tu as une solution.
C'est exactement ça. C'est comme de se dire, t'as un animal qui souffre, t'as de la morphine pour lui. Bah, pour moi, ça faisait partie du panel de solutions, en fait.
Est-ce que finalement, le fait de passer à l'acte, c'est... vouloir se supprimer ou c'est vouloir arrêter de souffrir?
Oh, c'est arrêter de souffrir. C'est vraiment ça. C'est une souffrance qui est telle qu'en fait... et puis, j'avais peut-être un peu l'image aussi, comme c'était mon deuxième épisode, pour moi, en tout cas, c'était le deuxième épisode que j'avais identifié. Je me disais aussi, en fait, si toute ma vie, c'est ça, que j'alterne des phases de dépression, je peux pas le supporter, en fait. J'ai pas l'énergie de refournir à nouveau l'énergie de m'en sortir. Donc je veux plus. Comme quelqu'un, par exemple, je compare ça à quelqu'un qui aurait un cancer, il fait une chimio ou il se fait opérer, on lui dit c'est bon, vous êtes en rémission, puis paf, il rechute. Bah, il y a des patients, ils disent, bah, moi, je veux plus. Bah, là, ça me faisait ça, en fait. Ça me faisait, non, je sais par quoi je suis passée, je sais qu'il faut que je repasse par ça. J'ai plus envie, quoi. J'ai plus envie de me battre, en fait.
Ok, j'entends l'émotion dans ta voix. C'est très dur à conceptualiser quand on l'a pas vécu. Je vais te poser une question auquel d'ailleurs t'es pas obligé de répondre, sans toi très libre avec ça. Mais moi, c'est quelque chose qui me hante parce que j'ai perdu un ami comme ça. C'est ces derniers instants, en fait. À quel moment, qu'est-ce qui se passe dans la tête au moment où on se dit que cette fois c'est fini, on n'en peut plus et on va vraiment le faire?
Ben, en fait, on rêve de ça. Moi, je rêvais de ça. Hein. Et mon ex l'avait vu, il le voyait dans mes yeux pour dire à quel point il était malfaisant. Je me souviens, parce que en fait, j'avais souvent des phases où je me déconnectais un peu de la réalité, où je regardais par la fenêtre, en fait. Et du coup, je me souviens d'une fois, il m'a dit ça va, on dirait que tu as sauté. Il m'avait sorti ça. Mais c'était vrai, en fait. Enfin, s'il avait pu lire dans mes pensées, oui, je pensais à la mort, en fait.
Et quand tu dis que tu te déconnectais, c'est des formes de ce qu'on appelle la déréalisation ou la dépersonnification?
Je pense que c'est ça. En fait, c'est comme si on n'était plus là, quoi.
Ouais, c'est ça. Je vais donner la définition du coup pour les auditeurs. C'est une forme de trouble dissociatif. Hein. Je crois que c'est très dur à expliquer quand on l'a pas vécu, mais c'est une espèce de dissociation de son corps, enfin du corps et du fonctionnement mental. Où on a l'impression d'être devenu un espèce d'observateur extérieur de son existence.
C'est exactement ça. C'est comme si tout le reste autour de soi était flou, en fait, où on cherche un échappatoire. Et pour moi, l'échappatoire, c'est de regarder par la fenêtre, en fait. Et du coup, oui, enfin, il y a eu toute une étape toute une durée de planification, hein, où oui. Aussi une autre chose qui était importante pour moi, c'est que je voulais pas que, donc j'ai une chienne, et je voulais pas que ma chienne soit là non plus.
D'accord.
Du coup, ça m'a demandé d'attendre un moment où elle était gardée par mes parents, en fait. C'est ce que je voulais. En fait, moi, j'imaginais l'après, et j'imaginais ma chienne toute perdue à pas comprendre.
Oui.
Et autant je m'en foutais que mon ex me trouve, parce que c'était en partie à cause de lui, autant, des personnes entre guillemets innocentes comme mes salariés ou.
Oui, bien sûr. Tu as organisé les choses.
Je ne savais pas du tout qu'elles endurent ça, en fait. Il y avait quand même la honte aussi.
Ouais.
Et je m'étais dit, si je le fais dans un autre endroit, ben ça va passer... sûrement que c'est ridicule, hein, mais je me disais, ça va passer dans le journal ou j'en sais rien. Et j'avais quand même honte. Enfin, c'est un espèce de mélange d'émotions, mais où quand la douleur, elle devient trop forte, en fait, ça passe au-dessus de tous les freins qu'il y a. Tous les freins. Et puis, j'étais extrêmement isolée. Hein. Enfin, j'avais la sensation de ne plus avoir d'amis, à part mes parents. J'avais vraiment l'impression que je manquerais à personne, en fait.
Oui, puisque tu étais dans cette dévalorisation permanente.
Ah oui.
Et donc, tu commets cette tentative de suicide, mais bon, tu sais que c'est un aller sans retour, puisque tu utilises de l'eutazole, donc tu sais parfaitement qu'il n'y a pas d'autre issue. Donc, tu fais ça chez toi.
Oui.
Et comment tu t'en sors?
Alors, ben, grâce à la surveillance de mon ex, donc je m'étais mis... Donc, il me surveillait vraiment tout le temps. Donc, c'est-à-dire, quand je rentrais le midi pour manger, en fait, il m'appelait pour s'assurer que j'étais bien toute seule. En fait, sa préoccupation, c'était ça. Il croyait tout le temps que j'allais le tromper. Donc, il était tout le temps là à vérifier. Il me demandait de me filmer. Enfin, il regardait mes temps de trajet pour aller au travail. Si j'avais mis une minute de plus, il fallait que je lui prenne en photo le feu qui n'avait pas passé au rouge. Enfin,
oui, des trucs... complètement délirant.
Ah ouais, non, mais c'était... Il a rajouté de la charge mentale où j'en avais déjà bien assez au travail. Mais j'avais en plus la charge mentale de le rassurer.
Oui.
Donc c'était, personne ne peut supporter ça et ne peut vivre ça, quoi. Et donc en fait, donc il y avait des caméras, comme je disais, un peu partout chez moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai perdu connaissance, en tombant, en fait, le congélateur, je m'étais mis dans un angle mort, donc derrière notre frigo. Et
en sachant qu'il n'y avait pas de vidéo, c'est ça? Alors,
y en avait pas dans chaque coin de la maison, donc je savais où il verrait pas faire. Donc j'avais tout préparé, hein, enfin vraiment, c'était tout au millimètre. Et du coup, le congélateur s'est ouvert, en fait. Et donc il a essayé de m'appeler, j'ai pas répondu alors que d'habitude je répondais parce qu'il m'y obligeait, en fait. Et du coup il a regardé les caméras, il a vu le congélateur ouvert, et du coup il travaillait pas très loin. Donc, il s'est précipité, il a cassé une vitre, il est rentré, il a vu ce qui s'était passé, il a appelé les pompiers, en fait.
Donc, toi tu ne te souviens de rien, tu étais déjà, t'avais perdu connaissance, et du coup, tu n'avais pas eu le temps de recevoir toute la dose de pentobarbital.
En fait, ça, personne n'a trop voulu m'en parler, tout ça. Donc, j'ai été en soins intensifs.
Parce que t'as fait combien? T'as fait du coma?
Alors, j'ai fait deux... Alors, je crois, mais ça, c'est pareil, hein, c'est des choses. Puis, j'ose pas, en fait, demander. Enfin, mes parents le savent, mais c'est des sujets que j'aborde plus avec eux.
D'abord pas, oui.
Donc, si je me souviens bien, ça s'est passé un mardi. Et après, j'ai des souvenirs. Je sais que j'ai été transférée dans un autre hôpital. De base, c'était les soins intensifs. Et j'ai été transférée dans un hôpital psychiatrique. Du coup, je crois que c'était le vendredi.
D'accord.
Et moi, je crois que je me suis réveillée le jeudi, mais c'est très flou et je me rappelle de moments, mais je sais même pas quel jour c'était. Enfin, c'est mes parents qui m'ont dit qu'il y a eu deux jours où j'étais complètement inconsciente, où ils savaient pas s'ils allaient, me sauver, en fait. Hein.
Oui, bien sûr.
Et j'ai des flashs, enfin j'ai des trucs dont je me souviens. Je me souviens que quand je me suis réveillée, je leur ai demandé à quel étage j'étais parce que je voulais sauter, en fait.
Oui, donc oui, bien sûr, parce que tu te réveilles, tes idéations suicidaires, elles sont toujours là, ton état psychique,
toujours dans le même état,
il est toujours dans le... Bah oui, évidemment.
Ah oui, et j'arrêtais pas de leur dire, mais je voulais pas que vous me sauviez, j'arrêtais pas de leur dire ça. À tous les gens que je croisais, qui venaient à moi, parce que j'étais complètement alitée, hein, j'étais pas du tout capable de... J'étais complètement dans le coltard. Je me souviens aussi que, alors ça c'est vraiment un épisode très traumatisant. En fait, comme je voulais me barrer, en fait, hein, je voulais arracher mes perfusions. Enfin, je voulais tout arracher. J'étais très agitée apparemment et du coup ils m'ont menottée au lit, quoi.
Oui, d'accord.
Donc la première nuit dont je me souviens, c'est une nuit où j'étais menottée. Moi, je suis quelqu'un qui dort jamais sur le dos, donc j'ai dû j'étais paniquée. Enfin, puis c'est un milieu qu'on connaît pas. Enfin,
bien sûr.
Tu te retrouves dans un truc où t'entends un peu les bruits à côté, mais voilà, c'est vraiment terrifiant. Et je me souviens qu'il y a cette nuit-là où j'étais attachée et que j'étais paniquée. J'avais pas le droit de boire aussi, alors que j'avais terriblement soif. Et une aide-soignante qui est passée dans ma chambre, et puis du coup, elle voyait que j'étais pas bien, du coup, elle m'a proposé de me faire un massage, donc je lui ai dit oui. Et puis elle m'a fait sucer un peu des compresses, un mi-bédo, et puis du coup, c'était mon moment de bien-être où c'est une personne dont je me souviens qui m'a fait du bien, quoi.
Oui. Et dans tout ce marasme.
Ouais, c'est ça. C'est le seul moment de bien-être que je me souviens. Et je me souviens que de mon père qui est venu me voir. Mais il y a des tas de trucs que j'ai oubliés, hein, parce que j'ai eu des pertes de mémoire pendant peut-être la semaine qui a suivi, en fait. Beaucoup de trous, de blackout. Je me souviens aussi que il y avait une télé dans ma chambre, mais que je voyais flou. Et du coup, mon père, il me dit, ah, mais t'as qu'à regarder la télé. Je lui dis, mais je vois pas bien, en fait.
Oui, c'est de la dissociation, coup, ça, effectivement.
Alors, non, enfin, je pense que j'avais vraiment un problème physique et ils avaient peur même que j'ai peut-être des problèmes visuels à cause des produits.
C'est une conséquence des barbituriques. Ouais. Oui, d'accord. Ouais.
C'était assez, je savais que j'avais toute ma tête, mais beaucoup de choses que j'ai oubliées. Et puis quand j'ai été transférée dans l'autre hôpital, bah pareil, ça, je me souviens pas du tout du transfert, alors que pourtant j'étais consciente.
Oui,
mais
d'accord.
Pour moi, mes premiers souvenirs dans l'autre endroit, bah il y a pas de lien entre les deux, en fait. Je sais pas dire si j'étais dans une ambulance. Ils m'ont même raconté, donc il y avait une psychiatre du coup dans le deuxième dans l'hôpital, et pour moi la première fois où je l'ai vue, elle m'a dit mais on s'est déjà vu. Et moi, j'ai aucun souvenir de la première fois où je l'ai vue. Enfin, pour moi, c'était la première fois, quoi. Alors que je lui ai parlé, donc j'étais bien éveillée. Et ça, c'est assez...
Impressionnant, quoi. T'as des trous de mémoire.
Ouais, c'est très désagréable, en fait. C'est comme s'il y avait... j'imagine comme les personnes qui se sont fait violer sous GHB ou des choses comme ça, où ils ont l'impression qu'il y a une partie de la réalité qui leur échappe complètement,
ouais,
et comme une espèce d'amnésie, mais qui est...
Chimique.
Ouais, chimique, et puis... Et du coup, on dépend des autres pour nous raconter ce qui s'est passé, en fait.
Oui, oui.
Et il y a une espèce de peur aussi de se dire, est-ce que j'ai pas dit des choses que j'aurais pas voulu dire, ou tu vois, c'est. Et ça, j'ai jamais trop posé de questions sur ce truc-là. Je m'en suis rendu compte petit à petit quand on me racontait des choses. Je me disais, mais ça, je me rappelle pas du tout. Enfin, je sais pas. Ça me dit rien, quoi.
Et là, comment réagit ton entourage, tes parents, peut-être ton ancien associé? Comment les gens réagissent?
Bah ça, j'en sais. Alors, enfin, sur l'instant, quand j'ai été hospitalisée, franchement, j'ai été coupée de... mes parents, ils venaient me voir tous les jours. Mon ex aussi. Mais lui, il venait pas pour me soutenir. Il venait parce qu'il avait peur que je parle, en fait. Parce qu'il savait très bien, je pense, au fond de lui, qu'il avait sa part là-dedans. Enfin, il y avait le boulot, mais il y avait lui aussi, quoi. Et donc, lui, il venait pour garder son emprise sur moi, en fait. Donc, j'avais mon bourreau qui était encore là, enfin... Ça s'est très très mal passé parce que ce qui s'est passé, c'est que mes parents, ils ont dû signer. En gros, quand j'ai été sauvée médicalement, on va dire, après, il fallait bien que j'aille quelque part. Et donc mes parents ne savaient absolument pas, ils n'étaient pas du tout introduits là-dedans, donc ils savaient pas du tout où m'envoyer. Donc ils ont, on leur a dit, de toute façon, c'est soit vous l'envoyez dans une clinique privée que vous connaissez, soit elle va dans un hôpital public. Qui est là pour recueillir un peu les gens qui peuvent pas vivre en sécurité à l'extérieur, quoi. En gros.
Ouais.
C'est un peu la voie de sortie des urgences, quoi, si tu veux. Et c'est un endroit, c'est horrible, hein. Cet endroit-là, donc on est enfermé. Pour moi, c'était comme une prison, quoi.
Ouais.
Donc on est enfermé au sens propre du terme. Donc les chambres sont ouvertes, mais les lieux sont fermés. On n'a pas le droit de... Donc, il y avait un grand parc autour. Mais moi, j'avais pas le droit. Alors, il y avait des patients qui avaient le droit d'y aller, mais pas moi. Parce que je pense qu'ils avaient peur que je parte. Je sais pas exactement. Enfin, en fait, ce qui est terrible, c'est que t'as pas toutes les clés. Tu es comme dépossédé de tes... T'as plus le pouvoir sur ta vie, quoi. Et c'est eux qui décident quand tu sors. Et tant qu'ils n'ont pas dit tu peux sortir, tu peux pas sortir. Donc c'est très angoissant parce que on est mélangé des patients de qui ont des pathologies complètement différentes. Donc j'avais un petit peu discuté, sympathisé avec des filles. Enfin, alors, on se parlait même pas en fait de nos maladies. Hein. Enfin, moi, il y a aucune des personnes qui étaient là où je savais ce qu'elle avait, mais il y en avait où vraiment comme ça. Enfin, mon impression c'est qu'elles étaient schizophrènes ou il y en avait une. Je sais que, enfin, je devais normalement être dans la même chambre parce qu'en plus c'est pas des chambres individuelles, hein, donc c'est des chambres à deux. Je devais normalement être dans la chambre d'une une femme qui venait de faire une fausse couche. Donc ils pleuraient H24. Oh là là. Et puis finalement ils ont choisi, ils ont décidé de mettre une autre voisine qui était une jeune fille, je me souviens plus ce qu'elle avait, mais voilà, qui était facile à côtoyer, on va dire, dans le sens où elle faisait pas de bruit et puis elle n'était pas à hurler ou à pleurer, mais c'est pas un endroit qui m'a fait du bien, quoi. Vraiment, il y a même des gens qui ont fait des trucs illégaux. Donc il y en avait un, il n'avait pas le droit d'avoir ses habits à lui, il était en pyjama bleu et il était à part pour les repas et il était toujours un peu gardé, quoi, un peu comme si c'était quelqu'un, j'en sais rien, qui avait violé quelqu'un ou je sais pas, mais qui avait fait du mal à quelqu'un, quoi.
Ouais, et on était pas mélangé dans... aux autres, quoi.
Voilà, c'est ça. Enfin, il n'était pas tout à fait mélangé, mais il était quand même dans, on se croisait, quoi.
Et à ce moment-là, ils te mettent en place un traitement.
Alors là, il me démarre l'antidépresseur. Et en fait, ce qui est horrible dans cet endroit-là, c'est qu'on voit le psychiatre peut-être tous les 2-3 jours, mais pendant peut-être 10 minutes. Mais le reste du temps, il se passe rien en fait. Il y a aucune activité organisée.
Et tu moi, n'as même pas de psychothérapie, quelqu'un à qui parler.
Absolument pas. Non, non. Il y a 10 minutes d'évaluation avec le psychiatre tous les 3 jours et en fait, on est censé discuter de nous-mêmes, aller vers les infirmiers psychiatriques, où il y en a peut-être 3-4 à la fois, mais dans une salle commune, enfin, je veux dire, il n'y a rien qui est fait. Et donc moi, ce qui me reprochait, entre guillemets, ou pourquoi ils ne me laissaient pas sortir, donc j'y suis restée 3 semaines dans cet endroit, parce qu'ils me disaient que je ne leur faisais pas confiance, ou je ne sais plus comment ils avaient formulé ça, mais en gros, parce que je ne leur parlais pas, en fait.
Oui.
Donc moi j'avais envie de rire, j'avais envie de leur dire mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi. Enfin,
non, mais ce que tu racontes c'est hallucinant parce qu'on lit dans la presse régulièrement que la psychiatrie en France c'est le parent pauvre de la médecine, qu'il n'y a pas de moyens et que enfin les témoignages qu'on lit ça ressemble à ce que tu dis, mais c'est vrai que c'est terrifiant ce que tu racontes.
Et ben ça c'est l'hôpital public en fait, hein, où ils te mélangent toutes les pathologies, puis on était peut-être j'exagère, mais on était au moins 20 voire 30 avec une télé commune pour tout le monde où qui tournait H24, où t'avais les clips vidéo, enfin, mais comment veux-tu, et aucune occupation, rien du tout, absolument rien, enfin pas de rien à faire en fait. Donc tu te lèves le matin
et tu ressasses.
Tu dors en fait parce que t'as rien à faire. Enfin, si t'arrives à dormir, moi j'arrivais pas à dormir, donc je gardais les yeux ouverts, je restais dans mon lit. Et donc, ils m'ont débloqué. Bah, moi, j'avais l'impression vraiment d'être en prison. Et à la fin, je leur disais que je supportais très mal parce que même le bruit des portes qui se fermaient, j'avais l'impression que c'était une cellule, en fait. Vraiment, ça me faisait vraiment cette impression-là et je l'avais verbalisé. Et je pense qu'ils ont enfin compris que il était temps de me laisser sortir et de me transférer ailleurs. Donc, en parallèle de ça, mes parents, ils ont fait des recherches. Enfin, ils ont demandé à ma psychiatre avec qui j'avais annulé le rendez-vous. Si elle avait des endroits à conseiller autres que celui-ci. Enfin, parce qu'en fait, cet endroit-là, c'est le sas entre le service, on va dire, au long terme et les urgences. Et du coup, ça fait que ils sont pas là pour te soigner, ils sont là, c'est la garderie, en fait. C'est la garderie psychiatrique de Lyon, quoi.
Ouais, d'accord.
Et ils ont pas du tout vocation de nous soigner ou de nous faire avancer par rapport à notre problème. C'est pas du tout ça leur sujet, en fait. Et il y a beaucoup de turnover.
Oui, d'accord.
Il y a des personnes qui arrivaient, qui restaient 2 jours, puis qui repartaient. Et puis moi, j'avais l'impression que j'allais jamais partir, quoi. Et il y avait ça faisait comme une espèce d'audience. Donc une fois par semaine, ils passaient les dossiers, puis ils disaient si on pouvait sortir ou pas. Et moi, j'avais l'impression d'être vraiment comme une prisonnière qui attendait sa libération, sa remise de peine, quoi. C'était, pour moi, le sentiment, ce que je vivais, c'était ça. Et heureusement, j'avais mes parents qui venaient tous les jours. Ils m'amenaient ma chienne. Du coup, ça nous permettait de nous promener dans le parc parce que sinon, je pouvais pas sortir du tout. Du tout, du tout, quoi.
Oui, d'accord.
J'avais même pas le droit d'aller chez eux, rien. Enfin, rien. C'est. Et tu sais pas pour combien de temps. C'est ça le plus terrible, c'est que vraiment, il y a pas de. C'est pas comme si on me disait, bon, bah voilà, tu vas rester là 3 semaines, puis après tu t'en vas. Là, c'est.
Oui, t'as pas d'échéance.
Ah non, c'est. Ça dépend de toi, mais tu sais pas ce que tu dois faire pour qu'ils te laissent sortir.
Donc, oui, d'accord.
C'est comme si j'avais pas les règles du jeu. Et oui, donc d'accord. Voilà, ils ont fini par me laisser sortir. Mais
c'est là où tu parlais du commissariat tout à l'heure.
Voilà. Donc là, quand je suis sortie de là-bas, donc ils m'ont. Il fallait que j'aille en gendarmerie pour disculper mon ex et dire que c'était pas lui qui m'avait.
Qui avait commis l'acte, en fait, que voilà, c'était pas exactement. Un meurtre ou un assassinat.
Et c'est là que le gendarme, il me dit, parce que du coup, il était sur place, visiblement, pour, le jour J, quoi. Et il me dit, oh là là, dis donc, vous aviez l'air de souffrir, hein. Qu'est-ce que vous hurliez, en fait, l'acte d'euthanasie avait été était visiblement douloureux pour moi.
C'est
complètement
ça.
Délirant, puisque j'étais dans le coma, donc, en fait, je pense qu'il a dit ça pour en pensant que ça allait me dissuader de recommencer, quoi. Je pense que c'était ça son idée, alors que je sais que c'est faux ce qu'il me disait, puisque j'étais endormie, donc je ne hurlais pas. Et puis, en plus, il me prend vraiment pour une idiote. Je suis vétérinaire, je sais très bien que c'est pas douloureux.
Bien sûr, ouais.
Donc c'est toutes ces petites maladresses, en fait.
Oui, qui alourdissent le.
Voilà. Et puis où il te demande pourquoi t'as fait ça. Enfin, en fait. C'était intrusif. Sa manière, ils sont pas formés.
Ils sont pas formés.
Voilà. Ce qui ressort de ça, c'est que c'est une expérience traumatisante en plus de tout le reste, du fait de la non-formation, alors que je pense que la personne qui te pose ces questions-là, elle devrait avoir une formation de savoir comment approcher la personne et comment ne pas, en rajouter une couche, quoi. Parce que vraiment, c'était le gros lourdeau où il m'a dit, ah, puis du coup, on en fait quoi? Parce qu'il restait, du produit. Et du coup, il me dit, on en fait quoi de ça? Mais il me dit ça à moi. Il me dit, je peux l'amener au veto de telle ville? Je dis, bah non,
de
en fait.
De délicatesse.
Non, mais.
Oh, ouais, effectivement.
Voilà.
Catastrophique.
Ouais, la cata. Et tu vois, ça, c'est le genre de choses. Bah, je ne sais pas comment je pourrais faire pour que ça change, mais c'est vrai qu'après tout ça, je n'avais pas l'énergie d'écrire encore et de faire une réclamation, mais. Et ce type, c'était même pas un vieux, hein. Enfin, je sais pas, il avait la trentaine, quoi.
Donc, oui, et puis il a probablement cru bien faire,
ah,
mais
bien sûr.
Fait tout à l'envers, quoi.
Exactement, voilà. Il y a rien qui va dans sa manière de faire, mais c'est ça qui m'attriste le plus, c'est de me dire que ces gens-là, ils se ressentent même pas comme indélicats, quoi, dans leur façon d'approcher les choses, quoi. Donc, sachant que je suis certainement pas la première personne, enfin. Peut-être la première vétérinaire, mais je pense qu'ils ont quand même affaire à d'autres personnes dans des cas comme ça, ou au moins des victimes de violence, ou je sais pas, qui viennent dans ce cadre-là. Enfin, s'il a la même approche, enfin, c'est quand même dommage.
Bien sûr.
Après, on peut pas leur en vouloir dans le sens où nous, dans nos fonctions de vétérinaire, on n'a pas de cours de psychologie, bah non plus quoi. Visiblement, hein, j'ai l'impression. Je sais
oui,
pas,
tout mais... à fait. Bah, déjà, on en parle même pour les femmes qui viennent pour violence conjugale ou pour des viols. Effectivement, c'est vrai qu'on parle beaucoup moins de personnes qui viennent pour ce type de choses. Je savais même pas, hein, qu'on devait aller au commissariat pour ce type de choses. Mais c'est comment, voilà, on recueille des témoignages factuellement, mais aussi dans la bienveillance, quoi. Ça mérite une formation parce que c'est pas du tout inné.
Mais surtout dans un contexte comme ça où j'étais loin d'être guérie. Enfin, je veux dire, je sortais juste de l'hôpital pour aller dans un autre, quoi. Donc, c'était vraiment... La difficulté qu'il y avait, c'est que je venais de changer de prévoyance. Ce qui fait que normalement, les recommandations des médecins, c'était que je sois arrêtée pendant plusieurs mois. Sauf que moi, j'étais chef d'entreprise et que je pouvais pas me permettre d'être arrêtée parce que j'étais la seule gérante, j'étais la seule vétérinaire. Enfin... Il y avait ma jeune salariée vétérinaire, mais qui était pas, elle était pas autonome. Puis toutes les tâches de gestion, vu que mon associé était sorti de la boucle, c'était moi qui devais les faire. Donc, je pouvais pas me permettre, en fait, de m'arrêter. Donc, ça a été quelque chose d'assez délicat à gérer. qui fait que du coup j'ai pas pu être réhospitalisée comme j'aurais dû normalement être hospitalisée en hospitalisation pleine bah, comme je l'avais été pendant les 3 semaines, mais sauf que là dans un lieu spécifique où il y aurait eu quand même de la thérapie à côté. Donc on a trouvé un compromis avec un hôpital de jour que j'allais consulter 2 jours par semaine, et puis en plus de ça j'allais voir la psychiatre. Donc j'ai repris des rendez-vous avec la psychiatre que je connaissais déjà. Donc j'allais au début peut-être 2 fois par semaine ou au moins 1 fois par semaine, toujours en continuant mon traitement. Et puis du coup c'est voilà, c'est ça qui a, c'était ça la bonne méthode quoi finalement. Mais ce que je trouve délicat, c'est que quelqu'un qui est informé, et ben il sait s'adresser à la bonne le bon hôpital, parce que du coup l'hôpital où j'ai été après en journée, c'est un hôpital qui propose aussi des hospitalisations fermées, donc ce dont j'aurais eu besoin après être passée à l'acte. Et c'est pas connu en fait, ces structures-là. Donc ça fait que la personne qui donc la famille, une personne qui se suicide, qui fait une tentative de suicide, et ben sa famille, elle sait pas où, enfin, elle est pas outillée en fait pour savoir où amener après cette personne-là de sa famille en fait.
Oui, dans le parcours de soins, on n'est pas aidé quoi.
Non. On n'est pas aidé, mes parents ils savaient pas, enfin parce que du coup c'est eux qui ont signé, c'est mon père qui a signé une hospitalisation sous contrainte dans cet endroit terrible dont j'ai parlé avant, et je lui en veux pas parce que de toute façon ils pouvaient, enfin ils lui ont un peu forcé la main, hein. Je pouvais de toute façon pas rentrer chez moi, mais cet endroit-là ne m'a pas fait de bien quoi.
Ouais, je comprends.
Donc c'est assez assez terrible en fait. D'être démunis comme ça, et puis et ce qui est terrible aussi, c'est que sur ces endroits-là, ceux qui sont bien, il y a des listes d'attente. Oui, et c'était avant Covid. Hein. C'était avant Covid, donc je n'ose même pas imaginer maintenant. Parce que moi, j'ai dû attendre 1 semaine ou 15 jours pour pouvoir y aller à l'hôpital de jour, alors que j'en avais vraiment besoin. Enfin, et ben ils vous disent non, il n'y a pas de place. Et pourtant, c'était à Lyon, c'était pas en pleine campagne. Hein. Donc, on est quand même bien fourni en hôpitaux.
Oui, bien sûr. C'est ce qu'on lit dans la presse. Mais effectivement, d'avoir quelqu'un qui le raconte en direct, c'est encore plus impactant.
C'est horrible, ouais. Et j'imagine que c'est pire maintenant, et que, alors que c'est des endroits qui évitent les rechutes. Enfin, moi, si on m'avait remis dehors, enfin, le premier truc que j'aurais fait, c'est recommencer, quoi.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, on est rentré en contact parce que je t'ai vu écrire un message sur le groupe de Veto Entraîne, et cette phrase m'a énormément marquée. T'as écrit que j'ai survécu contre ma volonté pendant plusieurs mois et j'ai mis presque 1 an à regretter mon geste.
Oui.
Donc effectivement, quand on en est dans cet état-là, la seule chose dont on a envie, c'est d'arrêter de souffrir. Tu l'as très bien expliqué. Donc il faut être très suivi. Comment cette année, elle se passe pour toi, et comment tu sors de cette envie de mettre fin à tes jours?
C'est quand tu commences à ressentir les effets positifs des traitements et de la thérapie. Mais c'est long, c'est très très long. Moi, les traitements, le sommeil, parce que du coup, bah, quand je suis sortie des soins intensifs, dans l'endroit, le premier hôpital, là, je sais même pas si je peux appeler ça un hôpital, je sais pas comment appeler ça, mais bon, bref, la psychiatre, elle avait mis en place un traitement assez lourd, hein, où j'avais des anxiolytiques, des antidépresseurs et des somnifères, et était dépendant. Hein.
Ouais.
Et alors, ce qui est aussi terrible, c'est que on t'explique rien là-dessus, enfin, on t'explique pas du tout les effets secondaires des traitements ou quoi que ce soit. Donc, ce qui laisse, je pense qu'il fait aussi qu'il y a plein de gens qui veulent pas en prendre parce qu'ils connaissent pas, bah, ils savent pas ce qui peut se passer s'ils prennent ces traitements-là. Et du coup, dans le deuxième hôpital, donc l'hôpital de Lourdes où j'allais, il y avait une psychiatre aussi qui chaperonnait un petit peu tous les soins. Et elle était hyper bien, et, elle me prenait pas pour une enfant, en fait. Et du coup, elle me disait, oui, c'est vrai, vous êtes dépendante, donc tout ce qui est somnifère et l'anxiolytique, vous y êtes dépendante. Mais vous inquiétez pas, vous arriverez à vous sevrer, c'est pas un problème, c'est pas grave, en fait.
Oui, là, c'est pas urgence, quoi.
Voilà. Et elle me disait, c'était cool d'avoir quelqu'un qui met les mots dessus, qui dit oui, c'est vrai. Parce que du coup, quand tu lis ta notice, enfin, je pense que tout le monde fait ça, hein, quand tu reçois surtout des traitements psychiatriques, on lit tous la notice. Et ça fait un peu froid dans le dos quand même hein, de lire tout ça.
Bon, après, si tu lis la notice du Doliprane, c'est pareil. Hein.
Oui, pareil, mais bon, là, c'est quand même un truc qui agit sur ton cerveau. Donc, tu vois, c'est encore une notion différente. Puis, c'est pas des trucs très rigolos, hein, les tremblements, puis la dépendance. Enfin, quand tu vois, moi, c'est peut-être d'une personne à l'autre, c'est plus ou moins une crainte, mais ouais, enfin, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur de pas être dépendante. Enfin, quand on te dit tu es dépendante de ton médicament, tu dépends de ça. Enfin, je sortais déjà d'une dépendance. Enfin, j'étais en plein milieu d'une dépendance affective, donc se dire j'ai une autre dépendance.
Ouais, ouais.
C'est comme la dépendance à l'alcool ou tu vois. Enfin, c'est se dire je dépends de
substances.
Est-ce
qu'il n'y a pas aussi le fait que bah voilà, les antidépresseurs, c'est un mot qui fait peur à tout le monde, alors que nous-mêmes en tant que vétérinaire, si on a un animal qui a des ulcères gastriques, ça nous posera aucun problème de mettre un IPP. Donc quand on a une dépression avec une baisse de sérotonine dans le cerveau, bah oui, c'est logique de mettre un inhibiteur de la recapture de la sérotonine, c'est de la chimie. Mais en fait, on est même nous soignants. On est opposé à cette béquille chimique parce qu'en fait le mot antidépresseur, c'est un peu comme le mot cancer, c'est juste trop difficile quoi.
Puis il y a dépression dedans et puis bah moi j'ai passé j'avais honte hein, d'aller chercher mes antidépresseurs à la pharmacie hein. Je disais pas, enfin tu vois, je glissais l'ordonnance et j'avais pas envie qu'elle me pose de questions quoi.
C'est honteux en fait.
Voilà, c'était vraiment alors que. Et maintenant plus, tu vois. Enfin, ça m'est arrivé il y a un an d'en reprendre. Et ben, j'en ai discuté. On en a même presque plaisanté avec la pharmacienne qui me disait, ah ben moi aussi j'en prends, tu vois. Donc,
je crois qu'en France on bat des records.
Je crois qu'on est les premiers. Et parce qu'on fait pas assez le volet
psychothérapie,
psychologie, enfin tout ce que j'ai fait après que j'ai découvert à l'hôpital de jour où là vraiment ça m'a. C'est ça qui m'a sauvée, hein, vraiment, qui m'a fait reprendre goût à la vie.
T'as eu un accompagnement long.
Pas si long, hein. C'était 6 mois, mais en 6 mois, j'ai beaucoup appris sur moi. Et puis, c'est un accompagnement qui te donne des clés pour après t'en sortir. Enfin, c'est des outils, en fait, qui t'apprennent. Donc, en fait, le principe, c'est un hôpital où c'est des patients qui souffrent un peu de pathologies comparables. Donc ça, c'est cool aussi, de pas avoir...
C'est en termes de degré d'atteinte lourde, voilà, mentale
c'est
lourde.
Ça. Oui. Exactement. Donc, tu peux plus t'identifier à tes voisins de table que le premier endroit où j'étais, où il y avait des gens qui étaient pas du tout, il y avait des gens qui me faisaient peur, concrètement, hein, que le deuxième endroit. Donc, comment veux-tu être serein dans un endroit où t'as peur de ton voisin? Enfin, c'est délirant,
c'est
quoi.
C'est pas possible.
Et du coup, j'ai même tissé une amitié là-bas où il y a j'ai eu une très bonne amie que j'ai rencontrée là-bas. Et en fait, on a fait notre premier jour là-bas le même jour. Et on avait les mêmes ateliers, c'était le complet hasard, parce qu'en fait, tu choisis parmi un panel d'ateliers, ils appellent ça des ateliers, donc c'est encadré par des psychologues, donc c'est multidisciplinaire, tu as aussi du yoga, de la sophrologie, il y a de l'art-thérapie, donc ça peut être différents médias, ça peut être... Donc il y avait un atelier conte auquel j'ai participé, où on lisait un conte, et puis après, on devait un peu dire un peu ce que ça nous faisait, à quoi ça nous renvoyait. Et on devait soit réécrire l'histoire du point de vue d'un autre personnage. Ou... donc, il y avait aussi des ateliers de... donc, c'est la TCC. Donc, je crois que c'est thérapie
comportementale.
Je crois que c'est...
Quelque chose comme ça.
Et le principe, en fait, c'est de... C'est comme un cours en fait. Donc ils t'expliquent les émotions et ils les décryptent et ils expliquent ça rentre vraiment dans les détails pour des gens novices. Hein. C'était pas spécifique pour des gens du médical, mais où ils vont te parler des hormones qui sont sécrétées quand tu as telle ou telle émotion que tu ressens. Donc la peur, la colère et du coup qu'est-ce que ça fait comme sensation physique. Pour décrypter, par exemple, les crises d'angoisse. D'où ça vient? C'est quoi qui se passe dans ton corps physiquement? Et en fait, le principe, c'est de se dire, on explique aux gens ce qui leur arrive pour qu'ils paniquent pas et aussi pour pas normaliser, mais pour aussi que chacun, il explique aussi son expérience de, par exemple, la crise d'angoisse. Et du coup, on se sent moins sale, du coup, puisque tu as 10 personnes autour de toi qui disent, ah bah oui, moi, ça me fait ça aussi. Ah bah oui, c'est vrai, ça fait ça. Enfin. Et du coup, ça m'a énormément aidé en fait. Et puis aussi de se rendre compte qu'on se connaît mal et que moi j'avais un espèce de préjugé où je me disais qu'il y avait des émotions que je ressentais peu, comme la colère. J'avais l'impression que j'étais rarement en colère. Et en fait, je pense que c'est parce que je l'avais vraiment intériorisée, cette colère. Et de se dire, enfin, le principe, c'est de se dire qu'on accepte toutes les émotions, quelles qu'elles soient, positives ou négatives, et qu'elles doivent s'exprimer, en fait. Que si tu les exprimes pas, tu vas les somatiser et c'est là que tu les bloques.
Oui, il y a un travail de déconstruction, reconstruction comme il faut, plus d'apprentissage sur toi-même, en fait.
Voilà, c'est ça. Et du coup, ça, j'y pense encore maintenant, hein. Pourtant, ça fait, c'était en 2019, donc ça fait 4 ans. Mais il y a plein de choses comme ça qui m'ont beaucoup marqué, où ça m'a débloqué des choses, quoi, vraiment. Et le côté multidisciplinaire aussi, qui était très, très positif. Et puis, en fait, ça aide aussi à réveiller des souvenirs ou réveiller de se dire, ah bah, tel truc, je le vis mal, mais pour quelle raison je le vis mal? Et c'est avec tout ce qui est atelier compte et autres où
tu débusques en fait des causes, voilà, ou des traumatismes.
Voilà, exactement. Ouais, ça te fait comprendre un petit peu tes réactions d'aujourd'hui, elles viennent d'où? C'est quoi dans ta construction qui a fait que et ce qui est bien, c'est que c'est un peu c'est guidé en fait, c'est pas quelqu'un qui te plaque ses vérités. C'est toi qui trouves tout seul en fait la solution. Donc tu te sens en plus un peu acteur de ta guérison parce que c'est toi qui démêle les choses avec l'aide de quelqu'un qui va te dire « Ah, bah, et pourquoi ?» Enfin, en fait, tu vas dire un truc, il va rebondir en te posant une question et tu vas dire « Ah, mais oui, c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça, mais oui, effectivement, il y a un point commun avec telle situation. » Et ça aide, en fait. Ça aide énormément de se déculpabiliser, de se dire « Bon, bah voilà, si j'ai agi comme ça, c'est parce que j'ai eu un modèle familial comme ça, ou parce que j'ai vécu ça avant. » Enfin, ouais, c'est... Se comprendre soi, c'est une manière aussi de se dire c'est pas moi qui suis mal fichu de l'intérieur ou qui a un problème. Enfin, et de comprendre aussi que la dépression, c'est pas une maladie mentale en fait au sens strict du terme, dans le sens où c'est réactionnel. Donc c'est quelque chose dont on peut guérir, à la différence de d'autres maladies comme la schizophrénie ou la bipolarité par exemple.
Bien sûr.
Et du coup, à cause de la réflexion de mon associé, c'est un truc qui m'a hanté longtemps où j'ai demandé à tous les psychiatres que j'ai rencontrés et encore là, il y a peut-être un an, j'ai encore demandé encore à d'autres psychiatres parce que j'avais besoin d'être sûre, en fait. Parce
que t'étais pas bipolaire.
Et non, je suis pas bipolaire. Mais en fait, je l'ai compris quand on me l'a vraiment expliqué avec des vrais arguments.
Oui, je comprends.
En gros, je peux pas être bipolaire parce qu'à chaque fois que j'ai eu des épisodes dépressifs ou des épisodes où j'allais mieux, c'était connecté avec le contexte. Donc, si j'étais en dépression, c'est que j'avais eu un événement qui m'a déclenché la dépression. C'est pas sorti d'un contexte. Et les moments où j'allais mieux, c'est parce que ma situation s'améliorait. Alors que la bipolarité, c'est complètement aléatoire et ça, y a aucun lien avec le réel. Ça arrive comme ça part à n'importe quel moment, quoi. Et puis, il y a aussi un autre psy qui m'a dit quelque chose qui me parlait. Enfin, en fait, moi, j'ai besoin... Pour croire les gens, j'ai besoin de vraiment comprendre et qu'ils m'expliquent avec les mots, qu'ils me parlent à moi. Et il m'a dit, de toute façon, la bipolarité, c'est un continuum. C'est que, et il y avait déjà d'autres gens qui m'avaient dit, mais de toute façon, on l'est tous plus ou moins. Mais ça m'allait pas comme formulation. Et le fait de me dire, c'est un continuum, là, j'ai compris le truc. C'est qu'en gros, on a tous cette tendance-là à avoir des phases où bien, pas bien, mais qu'après, voilà, enfin, il y a au-delà d'un certain seuil, ça va être pathologique et handicapant dans la vie quotidienne. Et à côté de ça, y a d'autres. C'est un espèce d'équilibre en fait qu'il faut trouver et où il y a des points positifs dans le sens où quand on est dans une phase où on est très bien, on va être très créatif, on va être. Voilà, moi dans les phases où j'allais bien, j'avais envie de me présenter à l'ordre. Enfin, tu vois, pour dire que j'avais des tas. C'était des moments très bons pour moi.
De nouveau, des projets, en fait.
Voilà, des projets. Et en fait, un truc qui manque beaucoup quand t'es en dépression, c'est que t'as plus de projets. Et pour moi, la vie, elle valait pas d'être vécue si j'avais pas de projet. Enfin, pourquoi je vis, en fait, si j'ai pas de projet? C'est...
Comme pour tout le monde.
Bah oui. Mais ça, je le ressentais très fort, quoi. Et cette incapacité à faire des projets, c'était un truc hyper douloureux, quoi.
Et faut le redire, c'est un symptôme de la dépression.
Oui, exactement. Comme le fait d'être désensibilisé aussi, qui peut passer en plus auprès des gens, ça peut passer pour de l'indifférence. Parce que du coup, quand quand t'as plus trop d'émotions, bah t'as du mal à t'intéresser aux autres et puis à être sincère.
Ouais, ouais, tu l'as bien expliqué. T'es complètement recentré sur toi-même en fait,
replié sur ton mal-être.
Sur ton mal-être. Ouais. Ouais.
Et du coup, ça c'est pour moi, c'était une source de culpabilité de me dire ouais, mais en fait tu t'intéresses même plus aux autres. Mais en fait, faut se pardonner pour ça parce que tu te dis t'as déjà pas l'énergie de vivre toi. Alors qu'est-ce que tu veux t'intéresser aux autres? C'est une énergie supplémentaire à fournir que t'as pas, quoi.
Oui, et puis tu le dis très bien, ça revient, c'est ça que t'exprimes, c'est qu'en fait tout ça c'est réversible, il faut le dire, le redire, c'est-à-dire que quand on est soigné, quand on est pris en charge, les symptômes s'atténuent, on reprend goût à la vie, c'est ce qui t'est arrivé, et on redevient une personne qui est capable de faire des projets, qui est capable de s'intéresser aux autres, qui arrête d'être dans une dévalorisation constante.
Oui, et c'est vrai que quand la dépression elle a duré longtemps, moi je sais que des fois, je me demandais qui j'étais en fait, je savais plus qui j'étais. Alors, c'était peut-être lié aussi au fait que j'avais mon conjoint qui m'avait un peu écrasé ma personnalité finalement. Il avait éteint ma personnalité, il avait éteint ma joie de vivre. C'est souvent ce que je disais. C'est comme s'il m'avait phagocyté un peu. Comme s'il m'avait sucé ma substance, quoi. Et ça fait que j'avais l'impression d'être une coquille vide. Donc, je pense qu'il y avait lui, et il y avait la dépression, enfin, il y avait plusieurs facteurs qui faisaient ça, et le burn-out aussi. Enfin, moi, comme je suis une combinaison de plein de choses, j'ai du mal à dire qu'est-ce qui vient de quoi, mais en tout cas,
c'est multifactoriel.
Ouais. Et je pense que pour plein de gens, enfin, pour avoir discuté avec pas mal de gens qui ont fait des burn-out, souvent, il y a aussi des combinaisons, hein. Souvent, c'est, on supporte, surtout nous, avec notre bagage de prépa et autres, où on nous a un peu appris et conditionné à supporter. Je pense qu'on est des personnes qui supportent très 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 longtemps des trucs insupportables où des gens, d'autres personnes auraient peut-être craqué avant, enfin pour un seul truc. Et nous, bah, on va prendre sur nous jusqu'à ce que vraiment la soupape elle pète, quoi.
C'est exactement ça me fait penser aux conditions dans lesquelles on est rentré en contact toi et moi. C'est que il y a un suicide récent d'une consoeur dans la profession et tout le monde évidemment ça met beaucoup d'émotions et tout le monde rapporte ce suicide aux peut-être quelques instants qui ont précédé en disant que voilà il y a eu des commentaires très négatifs d'un client, etc. Et en fait on oublie complètement tout ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire que c'est un processus extrêmement lent de détérioration de l'état psychique, et c'est ce que tu viens de dire. À un moment, il y a un catalyseur, c'est-à-dire quelque chose qui fait passer cette étape. Toi, pour toi, c'était cette formation PCR, mais qu'en fait, ça fait des mois, voire des années que ça dure, et qu'en fait, c'est à ce moment-là qu'il faut intervenir. C'est bien avant qu'on en arrive là.
Et puis aussi, je pense qu'on se leurre soi-même, et moi, la première, hein, ou comme... je pense les premiers épisodes dépressifs, bah alors certainement ça dépend d'une personne à l'autre, mais moi en tout cas c'était comme ça, ils passaient tout seuls. Du coup on les minimise et puis du coup en fait on les traite pas. En fait c'est pas parce que extérieurement ça allait mieux et que je refaisais des projets que j'allais mieux, en fait mon mal-être
profond
tout au fond il était encore là. Et tant que t'as pas coupé ou arraché la racine du truc qui te fait replonger, bah tu replonges. Donc tu rechutes.
Bah oui, évidemment.
Et du coup t'arrives à ce qui m'est arrivé à moi où c'est la rechute de trop. Où tu dis là j'ai plus l'énergie. Et c'est vrai qu'à l'hôpital de jour, j'ai discuté avec d'autres personnes qui avaient ressenti ça aussi, le fait de se dire je m'en suis sortie une fois, mais en fait on croit qu'on s'en est sorti, mais on s'en est pas vraiment complètement sorti parce que. Et c'est un processus, en fait. Voilà, faut l'accepter, en fait, que ça va peut-être pas être... On a l'impression qu'on s'en est sorti cette fois-là, mais si on rechute, ça veut dire qu'on n'a peut-être pas tout trouvé... on n'a pas tout compris, quoi.
Et dans ce cas, faut demander de l'aide et, voilà. Et se soigner.
C'est ça, ouais. Faut pas se décourager et se dire, ah bah si j'ai rechuté une deuxième fois, c'est que je vais faire passer... Parce que moi, c'était une crainte pour moi de dire... en fait, je vais passer ma vie comme ça, à faire des dépressions à répétition, et jamais je serai stable. J'avais même dit... Il y avait un truc aussi qui me minait, c'est sur les paquets d'antidépresseurs, bah t'as une femme enceinte barrée, en fait. Et du coup, moi, j'avais quand même ce projet d'avoir un enfant un jour. Et j'avais dit à la psychiatre, j'avais dit, mais du coup, ça veut dire que je pourrais pas avoir d'enfant, parce que ça veut dire qu'il va falloir que j'arrête mon traitement. Et j'ai peur d'aller mal si j'arrête mon traitement. Et en fait, elle m'a rassurée. Elle m'a dit, mais non, en fait, bah déjà... si vous décidez d'avoir un enfant, en principe, c'est que ça va bien dans votre vie. Et puis, bah, les hormones de la grossesse feront que vous irez probablement bien. Et puis, de toute façon, vous pouvez être suivi. Et voilà, il faut pas vous stresser à l'avance. Hein.
Oui, et puis, il faut le dire aussi, hein, en France, on a des unités mère-enfant. Alors, il n'y en a pas assez pour tout ça, mais il y a des unités mère-enfant avec des psychiatres. Et il y a des femmes qui font toute leur grossesse sous antidépresseurs, des antidépresseurs spécifiques. C'est aussi des choses dont on parle pas assez, parce que c'est des sujets tabous. Mais il y a plein de femmes enceintes qui prennent des antidépresseurs sans que ça pose question. Enfin, je veux dire, suivi par un médecin qui sait quelle molécule il utilise.
Et ça, c'est toi qui me l'as appris, parce que j'étais absolument pas au courant. Et pour moi, c'était un sujet de préoccupation. Et je pense que ça peut être un biais aussi pour se faire soigner. Et puis un autre préjugé qu'on a, enfin qu'en tout cas moi j'avais sur les antidépresseurs et que j'ai entendu aussi de la bouche de collègues, c'est les gens pensent que les antidépresseurs ça endort ou ça altère tes facultés cognitives ou et en fait, enfin mon expérience personnelle c'est que c'est l'inverse. Pour moi, ce qui me grillait le cerveau c'était la dépression. Ce qui faisait que j'étais sans énergie, endormie et même voilà, enfin il y a eu des phases où j'étais incapable même de regarder un film. Même ça, c'était trop pour moi parce que j'arrivais pas à me concentrer sur l'histoire. Même une série de une demi-heure, j'arrivais pas, je comprenais pas ce que je voyais en fait, tellement mon cerveau était
grillé, marchait plus.
Quoi. Ouais, c'est ça. Où t'as l'impression que t'as les idées ne se coordonnent plus. Et que du coup, ça t'enlève toute source de plaisir parce que tu peux même pas. Moi, j'aime beaucoup lire. Bah, je pouvais pas lire parce qu'en fait, j'avais pas de plaisir à lire puisque je lisais une demi-page puis j'étais obligée de reprendre parce que j'avais lu mais sans comprendre, sans mémoriser, sans. En fait, ton cerveau il devient inapte à toutes les tâches qui sont pas prioritaires comme manger, boire et même dormir. T'arrives pas. Enfin, même les tâches prioritaires, tu les fais pas. Donc les tâches de loisirs, c'est beaucoup trop quoi. Et des fois, je pense que les gens, ils croient que c'est la dépression qui fait, enfin, c'est les médicaments qui font ces effets-là. Et alors qu'en fait, non. Pour moi, c'est la maladie. Enfin, je suis assez, en tout cas, dans mon expérience à moi, c'était ça. C'est la maladie qui me rendait comme ça un légume, entre guillemets. Et c'est les médicaments qui m'ont permis de recouvrer mes fonctions, en fait.
Et on en revient au principe actif d'un médicament. Il y a plus de sérotonine dans le cerveau qui permet d'avoir, enfin, qui provoque tout un tas de symptômes. C'est une béquille chimique qui permet de rehausser le niveau de sérotonine. Voilà. Je sais qu'il y a d'autres familles d'antidépresseurs, mais peu importe. En tout cas, on en revient à ce truc hyper terre à terre de, bah oui, on met un traitement médicamenteux pour soigner des symptômes, en fait.
Et c'est plutôt, et pour le coup, enfin, donc les antidépresseurs, faut les prendre très longtemps. Souvent c'est plusieurs mois. Moi, dans mon cas, alors il y a eu des moments où je les ai arrêtés sur avis médical et que j'ai dû les reprendre. Et en fait, je voyais bien la différence. Et quand je les reprenais, bah, ça m'évitait d'avoir envie de me foutre en l'air, en fait. Hein. Enfin, tout bêtement. Hein. C'est juste que ça résout pas ton problème.
Il faut faire une psychothérapie à côté voilà. Et démêler. Mais ça t'aide.
Ça te permet d'avoir les idées claires pour pouvoir parler et aligner deux pensées, quoi. En fait, c'est ça qu'ils disent les médecins, c'est qu'ils disent prenez vos cachets, parce qu'en fait, tant que vous dormez pas, et tant que vous êtes pas en état de réfléchir sur des choses, on peut rien faire en fait.
Enfin, oui, on pourra pas avoir un échange constructif. Ouais, voilà. C'est ça.
Alors ça sert quand même parce que ils te permettent d'évacuer tes ressentis et tout ça et de sortir ce que t'as. Et puis aussi ça permet aussi aux médecins, je pense, de se rendre compte à quel point, enfin où t'en es quoi, dans quelle échelle t'es, et pour pouvoir faire le suivi et se dire ah bah là elle a franchi un cap, elle va mieux. Mais ouais, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de, et je l'ai entendu de personnes proches, hein, qui me disent non, moi je veux pas prendre de médicaments, je préfère aller chez le psy que prendre des médicaments, mais je pense que c'est pas, ça veut pas dire que c'est plus grave ou ça veut pas dire que on est plus gravement atteint si on prend des traitements, ça veut dire qu'on va peut-être récupérer plus rapidement en fait.
Ouais, c'est ça. Puis les deux peuvent être faits de concert.
En fait, c'est une synergie. C'est comme si on disait. Je sais pas, moi, un animal qui a de l'arthrose, je veux pas lui donner d'anti-inflammatoire, je veux juste lui donner de la nourriture. Bah, ça va peut-être, du JD, ça va peut-être suffire au début, mais pas, il y a des stades où il faudra les deux et que c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux, en fait. C'est ça qui fait que ça fonctionne et qu'on va s'en sortir, quoi.
Alors, j'ai encore quelques questions, notamment sur comment tu reprends le travail. À quel moment tu te sens capable de reprendre le travail?
Je me sentais pas capable. Hein. Enfin, moi, c'est ça le drame, c'est que j'ai repris le travail alors que j'étais pas prête. Hein. Franchement, surtout dans un contexte comme ça. Où...
À cause de cette histoire de chef d'entreprise et de prévoyance dont tu parlais tout à l'heure.
Exactement, ouais. Donc, ça a été dans la douleur. Alors, pour donner des exemples concrets de choses qui étaient très compliquées, c'était juste d'ouvrir ma boîte mail et de lire un mail et de le gérer, hein, de faire ce qu'on me demandait dans le mail. Ça me faisait des crises d'angoisse, quoi.
Et donc, t'étais pas prête du tout, quoi.
Non. Donc, du coup, mes béquilles, ça a été mes salariés où j'ai délégué des choses donc à mes assistantes. Ou des choses qui m'angoissaient beaucoup, c'était par exemple des choses qui peuvent paraître vraiment anodines. Hein. Ça peut être, par exemple, j'avais la déléguée Boehringer qui voulait que je lui donne mon prévisionnel de commande pour l'année de Broadline. Il fallait que je lui dise mon plan de commande, en fait. Et rien que ça, ça me paniquait. Et du coup, j'essayais de déléguer un peu où elle m'avait dit, si tu veux, enfin, il y en avait une qui savait en fait ce qui s'était passé. Elle m'avait dit, mais je te fais comme l'année dernière, t'angoisse pas avec ça. Elle faisait à ma place, quoi. Et c'est comme ça que ça, j'ai repris. Puis après, on reprend confiance en soi et on se dit, si finalement, ce qu'on savait faire avant, on sait toujours le faire, ça va aller. Mais au début, c'est une grosse angoisse.
Et t'as mis combien de temps à te ressentir de nouveau à même de travailler
En septembre, je pense. Donc, ça c'est arrivé en février, en septembre. Ça a pris presque 6 mois.
Hein. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Et t'as repris le travail combien de temps après, au tout début?
Au mois de mars. Mi-mars, peut-être. Oh, un mois et demi après.
C'est enfin, très court. Ouais, très, très court.
Même si c'était à petite dose, c'était quand même pas... C'est pas fun, hein. Quand c'est une partie de ton problème, c'est vraiment pas... Et ce qui m'a permis vraiment de m'en sortir, c'est de prendre la décision, parce que du coup, on était dans ce contexte-là de valorisation de la clientèle et tout ça. Et il y a un moment où je me suis dit, non, mais en fait, j'en veux plus de cette clinique. Enfin, le fait de m'autoriser à me dire, en fait, t'as le droit aussi de plus en vouloir et de changer ton fusil d'épaule, surtout avec ce qui s'est passé. Donc, ça fait que j'ai contacté mon associé, je lui ai dit, moi, je me sens plus de racheter. Donc, si tu veux, je te vends mes parts. Elle m'a dit non, mais moi non plus. Du coup, on a vendu toutes les deux à une autre structure. Et dans la foulée, j'ai quitté mon compagnon toxique.
Donc, tu as vraiment fait table rase.
Voilà,
du passé.
J'ai tout recommencé en fait. Et c'est ça qui m'a permis vraiment de m'en sortir. C'est
d'accord.
Vraiment. Mais ça a été très très long. Hein. Même pour me rendre compte que mon conjoint était. À quel point il était toxique, enfin, je l'ai réalisé en écoutant des podcasts sur les pervers narcissiques, où ça m'avait fait l'effet miroir, en fait, d'avoir l'impression que la personne racontait ce qui se passait chez moi, et d'entendre un petit peu son cheminement intérieur et de voir comment elle décortiquait tout ça. Je me suis dit, mais en fait, toi aussi, c'est pas normal ce qui te fait, en général, les conjoints maltraitants, ils minimisent, ou ils vont culpabiliser la victime. Et c'est exactement ce qui se passait. Et en fait, de voir que c'était un mécanisme qui était bien connu et qui était identifié, et de voir que j'étais dans une spirale où c'était pas ma personnalité. Enfin, oui, c'était ma personnalité, mais c'était pas ma personne qui était à l'origine, mais que c'était un fonctionnement, en fait. C'est un mode de fonctionnement qui est toxique. Ça m'a un peu sorti du truc et ça m'a sorti de son emprise, en fait. Plus tout ce qui avait été fait, toutes les petites phrases, les petits mots de mes psys, où sur le moment, j'ai pas analysé en fait ce qu'elle me disait, je l'ai reçu mais pas analysé. C'est ça qui m'a sorti. Donc je pense se dire aussi que quand on est une personne autour de quelqu'un qui va mal ou qui est dans où on voit bien que son système ou son fonctionnement est mauvais, et des fois je pense que ça peut être un peu fatigant pour la personne qui arrête pas de répéter mais tu devrais faire si, enfin qui essaie de donner des conseils ou de donner son ressenti. Et puis que la victime, elle va un peu balayer ça en disant « Mais non, tu te trompes, c'est pas vrai. » Mine de rien, même si on a l'impression que la personne n'entend pas, elle entend quand même.
Ouais.
C'est juste qu'elle n'est pas prête à...
Rétrospectivement, elle pourra reprendre ce qu'elle a entendu et l'analyser.
Ça sert, en fait. Ça sert toujours d'essayer d'aider les autres et de... Même si on a l'impression qu'on sert à rien quand on dit des choses où on...
De semer des graines, en fait.
Oui. En fait, faut pas... Je pense que l'erreur, des fois, que peuvent faire les gens, c'est de se dire « ça me regarde pas, je m'en mêle pas » ou « elle a pas envie de mon aide ». Et même si on rejette les gens, et en fait, on a besoin d'eux. Hein. Enfin, faut pas les laisser s'isoler, quoi.
Oui, d'accord.
Même en tant que collègue, si on voit une collègue qui va pas bien, faut pas se dire je vais l'embêter à lui dire tu vas pas bien, parce que en fait au bout d'un moment ça fait du bien de voir que moi j'ai eu des marques de soutien de personnes rien que d'avoir, même si je refusais leur proposition, ça me faisait du bien qu'elles me le proposent moi. Donc ça c'est ouais. hyper précieux en fait de sentir qu'on est apprécié des autres. Ça c'est de dire aux gens mais nous, enfin, même si on voit qu'elle est triste, de lui dire on t'apprécie, tu comptes pour nous, ça c'est hyper précieux aussi, je trouve.
Ouais, effectivement. et du coup, donc tu mets cette voilà, tu vends ta clinique, tu te sépares de ton ex, et là tu te retrouves à avoir vraiment du temps pour toi et pour réfléchir à ce que tu veux pour la suite. Quelles sont tes réflexions à ce moment-là pour le côté professionnel?
Alors, pour le professionnel, c'est de me dire que j'ai envie de me reposer, entre guillemets, de toute la partie gestion. Et que... alors, j'ai quand même... je pas renoncé. Hein. Enfin, le poste que j'ai pris après, donc c'était dans une autre région et c'était en vue d'association. Donc, pas sur le court terme, mais peut-être au bout d'un an, si entente mutuelle. Donc, j'avais quand même pas abandonné le truc. J'avais quand même envie... je m'étais pas dit non, finalement, le libéral, c'est pas pour moi. C'est pas un truc auquel j'allais renoncer. Mais en même temps, je me disais, bah, c'est bien, enfin, ça va me faire du bien, en fait, d'être salarié, de pas avoir à me soucier, de rentrer du chiffre d'affaires ou de gérer des salariés. Voilà, je me suis dit, ça va être mon année de transition, de repos, j'avais vu comme ça. Puis il y a eu le Covid. Donc, d'accord. Ça n'a pas été simple.
Pas simple.
Donc, j'ai fait une petite rechute à l'automne qui a suivi. Bah, pour plein de raisons, hein. Enfin, aussi parce que du coup ce conjoint maltraitant, j'avais porté plainte contre lui, puis du coup il y avait l'audience en fait qui se trouvait à l'automne, et en fait j'appréhendais énormément ça, donc j'ai rechuté à ce moment-là. Et puis parce que professionnellement voilà, j'avais, enfin ça, j'ai eu aussi des problèmes de harcèlement, enfin voilà, ça a été assez compliqué après professionnellement. Donc ça fait que j'ai rechuté, mais là comme j'avais mon background où je savais ce qu'il fallait faire, et puis j'avais aussi mes parents qui veillaient un peu au grain aussi, hein, qui, et je pense que comme c'était déjà arrivé, très rapidement, je leur ai dit, en fait, je les ai appelés à l'aide assez vite. Quand j'ai senti que j'allais pas bien, j'aurais dit, non, là, je vais pas bien, je sens que ça revient, ça va pas. Et du coup, j'ai repris très vite un traitement, et puis, ça m'a quand même, et puis j'ai retrouvé une psy dans ma nouvelle région, qui était très bien aussi.
Donc ça, c'est un apprentissage de ton fonctionnement que voilà. Tu as tiré et qui fait que tu te fais plus avoir, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est aussi ça que je voulais partager, c'est que même si j'ai rechuté après, j'ai rechuté beaucoup moins dur, et même si c'est dur hein, de rechuter, et que je me dis maintenant intérieurement, je me dis bah peut-être dans quelques années, j'en sais rien. Tu peux pas jamais savoir ce qui va se passer dans ta vie, et je sais que voilà, c'est quand même un mode de fonctionnement que j'ai de me dévaloriser quand il se passe un truc, ou de me rendre responsable pour des choses extérieures. Donc je sais que ça peut m'arriver, mais maintenant je sais quoi faire en fait. Et ça change tout, hein.
Ça change tout.
Ouais.
Oui, bien sûr.
C'est vraiment et du coup on le vit beaucoup moins mal, et puis en plus je sais m'entourer. Maintenant j'ai mon réseau aussi de professionnels de santé mentale
de confiance.
Voilà, de confiance. J'ai des amis aussi qui sont au courant de mon parcours et du coup à qui je peux en parler. Bah j'ai cette amie que j'ai rencontrée dans l'hôpital aussi où quand elle rechute ou moi je rechute, ben on discute beaucoup et puis on s'entraide et voilà, et le fait d'avoir dans son cercle des personnes qui comprennent ce que tu traverses, ben c'est très aidant.
Bien sûr.
Ouais.
Et est-ce que par ailleurs tu as mis en place des choses dans ton quotidien non professionnel du coup qui t'aident à aller bien, je sais pas, une espèce de routine quotidienne, des loisirs spécifiques
Alors, bah, ce que j'ai appris de cette expérience, c'est qu'il faut pas tout investir dans le professionnel. Donc moi, ce que je le faisais aussi parce que j'étais malheureuse dans ma vie perso. Donc c'est aussi pour ça hein, que j'ai tout reporté sur le pro, parce que je me disais, bah, ok, t'as une vie perso pourrie, mais au moins t'as ta vie pro qui fonctionne. Et problème, c'est quand après la vie pro, elle va plus, bah après on n'a plus rien. Et c'est aussi ça qui a fait que j'ai plongé comme ça en 2019. Et là, c'est vrai que maintenant, Et du coup, c'est pour ça que c'est douloureux pour moi de lire des fois sur les groupes Facebook des vétos qui vont dire « Ah ouais, les jeunes, ils pensent plus qu'aux loisirs. » Mais en fait, c'est ça le secret de se sauvegarder du burn-out et de la dépression, c'est ça.
Une soupape.
Ouais, et c'est ça que j'ai appris aussi, parce qu'au début, en fait, ce qui est terrible avec la dépression, c'est que tu prends plus plaisir aux loisirs que t'aimais avant. En fait, t'as l'impression qu'il n'y a plus rien qui est bien. Donc même les trucs que t'aimais faire avant, bah tu les aimes plus, t'aimes plus rien en fait. Il y a plus rien qui te fait du bien, qui te fait plaisir. Donc ça, c'est un long apprentissage à réapprendre, à prendre du plaisir. Et du coup, il y a une petite méthode toute, ce qui peut paraître un peu bébête, mais c'est, il nous avait donné comme, comme petite astuce de se trouver 3 kiffs par jour. Et du coup, de se les nommer vraiment, donc soit de les écrire sur un carnet, soit de se les verbaliser et de se dire, bah voilà, aujourd'hui, bah, par exemple, on a la fin de la journée, bah, il y avait quoi d'agréable aujourd'hui, quoi. Et de se, et c'est, et, en fait, l'intérêt, c'est de, d'entraîner son cerveau à voir le bon. Parce que, en fait, notre cerveau, il est entraîné à voir les trucs négatifs. C'est une histoire de.
Cerveau primitif, non? Ouais, c'est ça. Hein.
C'est l'évolution, en fait, qui fait qu'on ouais, est entraîné à voir ce qui va nous tuer, quoi. Et du coup, c'est pas, ça paraît con, hein, de faire ça. Mais quand tu vas mal, bah, t'as du mal à les trouver, les 3 trucs, hein. C'est hyper difficile. Et du coup, bah, c'est un truc, même tout ce qui est sophrologie, c'est s'ancrer dans le présent. Donc ça, c'est aussi des techniques qui t'apprennent, t'apprennent à sortir de tes états, à anticiper une crise d'angoisse et à la désamorcer. Donc ça, c'est des outils aussi que j'utilise au quotidien. Et ils t'apprennent à apprécier les bonnes choses et à les ancrer en toi. Donc l'idée aussi, c'est quand t'es... moi, bah, mon dada, c'est la rando, ou c'est, enfin voilà, c'est beaucoup les voyages. Et quand je suis dans un lieu vraiment où je me sens hyper bien, bah, c'est de prendre des grandes inspirations et puis de se le réaliser intérieurement, de se dire, là, je suis très bien. Et ça te permet d'ancrer ton souvenir et d'y faire appel quand t'as des moments moins bien. Tu dis, ah bah là, il y avait ça qui était hyper chouette, quoi. Et de se dire, bah, puis même là, avec le recul, je me dis, tous les trucs super sympas que j'ai vécu depuis que j'ai failli mourir, bah, c'est quand même cool, quoi, que ça ait raté finalement.
Oui, c'est des petits outils qui au quotidien te permettent de voir le verre à moitié plein.
Voilà, c'est ça. Et aussi, maintenant, un truc que je ne voudrais plus faire, c'est de travailler à fond de balle. Bah là, je suis dans un projet à nouveau de création. Bah, je vais m'instaurer et j'ai même averti mes proches en leur disant, il faudra bien me dire si vous voyez que je commence à virer, à trop investir dans le professionnel et à plus garder de temps perso, c'est vital, en fait, de...
Tu vas te mettre des garde-fous, en fait.
Voilà. Aussi, un autre truc aussi qui m'a beaucoup aidée, c'est de commencer à fréquenter des personnes en dehors du cercle vétérinaire. Parce qu'avant, je fréquentais quand même beaucoup d'anciennes collègues ou je sortais pas trop de ce cadre-là et le fait de... Donc, ça demande un effort, mais c'est un effort qui paye bien de s'inscrire à des activités bah, dans sa région, en fait. Donc, moi, comme j'arrivais dans une nouvelle région, bah, j'ai rencontré de nouveaux voisins. Donc, j'ai fait un peu cet effort-là d'aller vers les autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait une soupape. Le fait de discuter avec des gens d'autres professions, d'écouter leurs problèmes à eux, en fait. Ça te sort de tes problèmes à toi.
Ouais, bien sûr. Ça t'ouvre.
Ah ouais, carrément. Et ça, c'est vraiment ça qui m'aide, en fait.
Ouais,
c'est pas du temps perdu, en fait, le temps libre. C'est du temps de vie, quoi.
Bien sûr.
Et j'écoute beaucoup, je suis beaucoup la page de Colline Musel, et qui discute beaucoup de ça, et des mots, et de comment on appelle les choses, le temps libre, et de ce que ça dit, en fait, du reste du temps. Ça veut dire que le reste du temps, on est enfermé. Enfin, et je trouve que c'est, on s'enferme un peu dans une réalité où on se dit que ce qui est valorisé, alors je sais pas si c'est en France ou si c'est, enfin, je pense qu'il y a d'autres pays aussi où c'est comme ça, où le travail est surinvesti et a une place beaucoup trop grande, malgré qu'on passe pour les feignants apparemment parce qu'on part à la retraite avant les autres. Mais moi, c'est pas l'impression que j'ai. J'ai l'impression que on n'existe que par son métier. C'est le truc qu'on te demande quand tu rencontres quelqu'un, on te demande ce que tu fais dans la vie, quoi. Et ce que on veut dire ton métier, hein. On veut pas dire ce que tu fais comme hobby.
Et on le fait tous.
Bah oui. Et on le fait parce qu'on est dans ce système-là, mais.
Oui, tout à fait.
Et c'est un truc qui t'enferme, en fait, dans ta fonction où, on te dit, bah, t'es veto, c'est ça ton identité. Ça, moi, c'était devenu mon identité. Et de se sortir de ça, c'est ça qui sauve un peu, je pense.
Oui, c'est très clair. Alors, j'ai une autre question que je pose à chaque fois, mais qui a une résonance particulière au vu de la thématique de cet épisode. C'est qu'est-ce que tu as envie de dire aux confrères et aux consoeurs qui nous écoutent en ce moment et qui sont en dépression et qui parfois ont des idéations suicidaires?
J'ai envie de leur répéter ce que tu as dit à un moment donné, que c'est un symptôme et que ça passe, que c'est, ça veut dire qu'ils sont, qu'ils sont un peu négligés finalement, qu'ils ont un petit peu ils n'ont pas écouté leur voix intérieure qui leur disait « ça va pas, je suis pas bien, je suis fatiguée ». Et on a tendance à minimiser des choses et puis à se pousser trop en fait. Et que c'est pas quelque chose de permanent. Maintenant, j'ai plus du tout d'idées suicidaires depuis bien longtemps et je suis très contente de vivre. Et j'apprécie la vie, donc de se dire que c'est pas irrémédiable. Voilà, qu'il y a des solutions et que c'est, je suis vraiment intimement convaincue que c'est vraiment quelque chose de chimique. C'est vraiment un déséquilibre qui provoque un fonctionnement, mais comme c'est quelque chose d'invisible aux yeux des autres, eh ben on a tendance à pas vouloir l'exprimer. Ça fait partie des maladies chroniques invisibles qui sont douloureuses parce que
et honteuses.
Et oui, honteuses. Et en fait, on se rend pas compte qu'il y a énormément de gens qui sont touchés. Je me souviens plus des statistiques. Faudrait qu'on retrouve. Mais
ah oui, je crois que c'est absolument énorme. Ouais, oui, tout à fait.
Je sais pas si c'est pas une je dis peut-être une bêtise, mais il me semble qu'il y a une personne sur deux en France qui va un jour avoir un épisode dépressif.
Oh, ça m'étonnerait pas, effectivement, vérifier ce chiffre.
C'est de cet ordre-là. Enfin, c'est absolument pas. Donc, on n'a pas à avoir honte, en gros.
Et ce que tu dis, c'est que c'est réversible et que c'est pas une fatalité et qu'on peut se soigner, quoi.
Oui. Et puis, de pas hésiter, de pas minimiser ses symptômes aussi aux autres en se disant, je vais leur faire peur. Parce qu'en fait, et à la fois, je dis ça, mais en fait, c'est pas ce que j'aurais réussi à faire, en fait.
Oui, mais là, la voix que tu portes, c'est que toi, tu l'as vécu, donc on peut, tu donnes pas des conseils comme ça au hasard, tu l'as vécu de l'intérieur. Donc, s'il y a bien quelqu'un qu'il faut croire sur ce sujet-là, c'est bien toi, c'est quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur. C'est ça que je trouve assez fort. Donc oui, probablement qu'on n'est pas en état de faire tout ce que tu dis, mais quand on l'entend et qu'on se dit, parce que ce que tu es en train de dire là, c'est si vous avez des idéations suicidaires, bah, vous en parlez. En fait, surtout, voilà. Il faut en parler parce qu'il faut agir et que c'est grave, en fait.
Et quitte à l'édulcorer, parce que moi, jamais j'aurais été capable de dire j'ai des idées suicidaires, mais rien que si vous dites, souvent on dit j'ai des idées noires, bah, rien que ça, les gens, ils comprennent. Ou juste dire ça va pas, je me sens pas... Je me sens déprimée. Bah, rien que de dire ça, je pense que ça, quand même, ça attire un peu l'attention et la sympathie. Enfin, j'ose espérer que, voilà, que les collègues ou l'entourage va, du coup, venir un peu en aide. Et c'est c'est comme de tendre la main en disant à l'aide un peu. Enfin, le à l'aide, même si c'est un petit truc, et ben, c'est quand même bien déjà. Enfin, c'est bien tout ce qu'on arrive à dire plutôt que de se renfermer, de ne plus parler du tout. Parce que moi, j'ai eu des périodes comme ça où j'étais mutique. Et une personne qui parle plus du tout, alors que c'est... Pourtant, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Enfin, moi, c'est vraiment... Ma personnalité, c'est de parler beaucoup. Donc, ouais, voilà. Enfin, d'essayer de dire ce qu'on arrive à dire. Mais voilà, même si c'est des petites choses, de pas se dire « Oh, mais ça sert à rien. » Ça sert toujours.
Oui,
ça sert toujours. C'est un lien vers la vie, en fait. Le lien aux autres, c'est ça qui te sort de ta mouise.
Bah écoute, c'est important de le dire et de le redire. Est-ce que s'il y a des consoeurs, ces mêmes confrères qui peuvent souffrir d'une situation difficile, est-ce qu'ils peuvent te contacter?
Oui, ils peuvent me contacter. Ils peuvent me contacter alors par mail ou par Insta. J'ai un compte Insta. Alors c'est _DELPH_INE.
Impeccable. Et évidemment, par mail, vous pouvez nous envoyer des mails sur podcast@themavet.fr et on les retransférera à Delphine. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié et que tu voudrais ajouter?
J'aurais pu parler encore pendant longtemps, mais
c'est plus long, le plus long enregistrement que j'ai fait, mais je pense que ça en valait largement la peine parce que c'est hyper important.
En tout cas, je suis contente de témoigner. Ça a pas été une démarche facile, mais je l'ai fait déjà à plusieurs reprises, donc lors l'interview de France Inter. Je le fais aussi en me disant que moi, ça m'a aidé. Ce qui m'a sorti vraiment de mauvais mécanismes, ça a été d'entendre des histoires similaires. Donc, j'ai envie de rendre ça un peu, de mon côté et d'apporter ma pierre en me disant peut-être quelqu'un qui écoute mon histoire et que ça ressemble un peu à sa vie, ça peut lui servir un peu de piste et de voir qu'il existe des choses en fait, mais des fois c'est pas facile d'accès. Mais voilà, même s'il y a des personnes qui veulent me contacter pour savoir, ou même on peut les mettre dans les ressources, le centre où j'ai été bien aidée, où il y avait des ateliers spécifiques qui étaient vraiment très bien.
Ouais, tout à fait. Voilà, n'hésite pas à me le communiquer. On pourra le rajouter dans les commentaires.
Voilà, ça, je peux le communiquer, ou voilà, enfin, c'est se dire qu'il y a, c'est pas facile d'avoir de l'aide, mais il y en a, et que voilà, faut pas se décourager, et aussi même par rapport au psychologue, au psychiatre, qu'on trouve pas tout de suite toujours la bonne personne, mais que voilà, faut, ça demande beaucoup de courage de prendre un rendez-vous, et moi j'ai mis des fois des mois à prendre des rendez-vous, mais on finit toujours par trouver quelqu'un qui va nous aider, quoi. Il y a des gens pour dont c'est le métier, qui sont très forts pour le faire, et vraiment j'ai rencontré plein de psy qui étaient, que je remercie, enfin souvent je leur envoie à la fin de la thérapie. Ça m'arrivait plusieurs fois d'envoyer des mails de remerciement en leur disant, enfin, parce que je mesure en fait l'impact qu'ils ont eu, quoi. Alors que aux premières séances, je me disais, ça sert à rien. J'y vais, mais ça sert à rien. En fait, on n'est pas du tout lucide sur l'apport des psys, parce qu'on a l'impression que c'est juste parler, mais c'est pas juste parler. C'est beaucoup plus que ça.
Beaucoup plus que ça, oui.
Oui.
Bon, en tout cas, c'est très courageux, hein, de ta part d'avoir pris la parole sur ce sujet en incarnant le récit. Et ça, c'est important parce que on peut lire des articles sur ces sujets où on parle des autres, mais en fait, là, c'est toi qui racontes ta propre histoire. C'est un impact bien plus important. Je suis un peu émue, hein. Je suis désolée parce que c'est à écouter, c'est pas facile. Oui. Je suis heureuse que tu sois encore là pour nous la raconter, cette histoire, parce qu'il s'en est fallu quand même de peu. Oui. Et merci de nous avoir aidé à mieux comprendre ce qui se joue, et merci pour tous ces mots d'espoir aussi. Et puis il y a beaucoup de merci, mais merci aussi pour la confiance que tu m'as accordée, parce que je suis très honorée d'avoir recueilli ton témoignage, et je suis sûre qu'il aidera nos consoeurs et nos confrères qui souffrent. Donc je te dis merci encore et au revoir Delphine et très belle continuation.
Merci Marine de m'avoir donné la parole en tout cas.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.